leur chant. Hors-champ, bonsoir à toutes et à tous et merci de votre fidélité. Hors-champ ce soir et demain soir avec Peter Sloterdijk. Merci d'avoir accepté, Peter Sloterdijk, cet entretien. On vous connaît bien, je crois, en France. Vous avez publié de très nombreux textes ayant trait à des domaines très différents. On reviendra sur votre parcours et vos différents stades initiatiques de la philosophie. Mais on ne connaît rien de votre enfance. On ne sait rien. On ne sait que le moment où vous avez passé votre thèse de philo sur l'autobiographie. Mais avant, que s'est-il passé ?
Récemment, lorsque j'ai rangé mes papiers chez moi, dans ma bibliothèque, je suis tombé sur une photographie que ma sœur m'avait envoyée à l'occasion de mon 60e anniversaire. Elle a écrit une très belle lettre en disant « Malgré le fait que tu es devenu un philosophe assez reconnu, pour moi, tu resteras toujours mon petit frère. » Et pour prouver sa thèse, elle m'a envoyé une photo où j'ai peut-être 4 ans. Hein, j'ai porté un pantalon en cuir à la bavaroise, hein, comme on le faisait à l'époque, avec des bretelles et un morceau en ivoire sur la poitrine. Un petit chapeau bavarois, la tête légèrement inclinée, un bas avait glissé sur la chaussure, et je retrouve un petit garçon qui fait un effort de ne pas pleurer, qui est évidemment très gêné, hein, et qui espère qu'en souriant, on peut survivre. Ça, c'est le message de cette photo, et ça me dit quelque chose que je reconnais jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire, avec une certaine stratégie de gentillesse et des moyens indirects, on peut glisser à travers la vie.
S'accommoder avec la vie.
Mais je crois, en même temps, cette photo-là, date d'une période où la langue ne s'était pas encore manifestée chez moi. J'avais déjà quelques gestes reconnaissables et qui restaient fidèles jusqu'à aujourd'hui, mais la langue était encore absente, j'en suis sûr.
Vous êtes un enfant de l'après-guerre. Quand avez-vous appris les ravages de votre propre pays et comment ?
On a joué dans les ruines des maisons bombardées jusqu'à ma 15e année. Les maisons à côté étaient détruites. Et la reconstruction a demandé des années et des années. Et on vivait littéralement dans les ruines, à côté des ruines. Alors la ruine était le point de départ pratiquement naturel. Un enfant ne pose pas de questions pourquoi la maison est dans un état aussi mauvais. On prend tout comme il est. Si tu passes en tant qu'enfant, tu passes à un pré, il y a une vache avec des grandes taches en couleur, noir, blanc, brun, et elle se repose sur les prés. On ne pose pas de questions. C'est ça, qui va sans dire. Et cette expression, aller sans dire, c'est le point de départ du langage. Parce que, il y a une accumulation de choses qui vont s'en dire, et tout à coup, ils se mettent à parler. Et puis, il n'y a plus rien de ce qui va s'en dire. Tout à coup, tout veut parler. Et le reste de ce qui va s'en dire se rétrécit de plus en plus. Enfin, on a tout dit. On a consommé le reste du monde jusqu'au moment où tout est dit. C'est peut-être la forme essentielle d'une biographie d'auteur.
Mais tout n'est peut-être jamais dit parce que tout reste ouvert. Enfin, en tout cas, quand on lit vos bouquins, on voit bien que tout reste ouvert intellectuellement et que les métamorphoses du monde se modifient selon la réalité, mais aussi selon la pensée. Donc, vous avez vécu enfant dans les ruines. Est-ce que quelqu'un vous a expliqué ces ruines? Et est-ce que ce monde en déconstruction naturelle, entre guillemets, a été quelque chose que vous avez eu à penser et qui vous a influencé ensuite philosophiquement?
Oui, bien sûr. On nous a expliqué que il y avait des Américains qui lançaient des bombes sur des villes innocentes. Donc, ça, c'est clair. Et aussi, il y avait aussi des Britanniques, parce qu'à Munich, il y avait deux sortes d'envahisseurs venus d'en haut. Il y avait le Royal Air Force et d'un côté et les Américains de l'autre. Tous les deux venaient à travers les Alpes et jetaient leurs bombes sur les villes de l'Allemagne du Sud. Peu à peu, on a appris une histoire. Mais cette histoire ne donnait pas vraiment une vision cohérente. Parce que normalement, on ne jette pas les bombes sur les villes innocentes. Malgré tout ce que les gens qui vivaient dans les villes pourraient avoir commis auparavant. Ma mère m'a raconté de temps à autre comment c'était quand une flotte aérienne a envahi le château de Schleißheim où elle se trouvait à un moment. C'était certainement une des dernières attaques sur la ville de Munich. Et elle m'a raconté d'une façon très impressionnante ce que ça voulait dire. D'éprouver réellement la menace de la mort imminente. Et personne ne savait si les caves où on se cachait tiendraient ou non, parce que il y avait des bombes d'une pesanteur énorme qui pourraient écraser les coupoles de béton et toutes sortes de défenses. Alors ça, c'est une réalité que j'ai éprouvée. La peur restait dans les personnes. Tout le monde portait une archive de peur dans sa poitrine, pour le dire poétiquement.
Et ces années de reconstruction allemande avec l'occupation américaine et ce sentiment de culpabilité, est-ce que vous l'avez ressenti à l'intérieur de votre cercle familial ?
Très peu, parce que déjà dans mon enfance, j'ai remarqué que les gens ont toujours un talent fou de redevenir innocents. C'est-à-dire, peut-être on a fait des applaudissements à un mauvais moment, mais applaudir, ce n'est pas nécessairement commettre un crime. Et si les acteurs disparaissent, auxquels on avait donné l'applaudissement pendant un certain moment, on redevient innocent. Et je crois que les Allemands avaient un talent fou pour redevenir innocent. Et ils vivaient dans une atmosphère de fausse innocence et toujours confronté avec des accusations qui voulaient approfondir la culpabilité. On était donc deux fois coupables D'abord, on avait assisté à des choses atroces, même si on ne les avait pas commis par ses propres mains. Et après, double culpabilité. On voulait repartir à zéro, comme si rien ne s'était passé. Alors, coupable de ce qui a été, coupable de la volonté d'oubli. Et ça a créé cette atmosphère très, très bizarre qui a pesé sur l'atmosphère, sur le pays allemand, jusqu'au milieu des années 60. Là, il y avait une sorte de coupure psychopolitique. Il y avait la nouvelle génération qui a formellement ouvert le procès de reconstruction et qui commençait systématiquement à interroger les vieux. Et comme les réponses n'étaient pas satisfaisantes, on allait directement dans les archives, on a fait des recherches historiques, et le dossier de l'accusation a grossi énormément.
Alors, il y a eu la publication du livre de Karl Jaspers sur la culpabilité allemande, il y a eu la polémique de Jaspers avec Heidegger après la guerre. Est-ce que tout cela vous a influencé intellectuellement ?
Je ne pense pas. Moi, je passais ma jeunesse dans une atmosphère caractérisée par un certain protestantisme culturel.
Ça veut dire
Et il est vrai que d'orientation luthérienne, hein, c'est-à-dire, en quelque sorte, la vie intellectuelle et morale de l'Allemagne fédérale recommençait en octobre ou novembre 1945, avec la confession de culpabilité du protestantisme allemand. C'est-à-dire, c'était le premier geste d'une sorte de reconstruction morale. Et c'était très bien fait, parce que cela a prouvé que c'était les cercles religieux qui avaient compris avant les autres, hein, qu'il fallait assumer la responsabilité de ce qui s'était passé, et que les églises avaient péché dans l'essentiel de leur tâche. Ils s'accusaient de ne pas avoir suffisamment aimé. Hein. Ça, c'est une formule classique. Surtout pas par rapport aux concitoyens juifs dont on a regardé la disparition d'un œil indifférent. Alors, ça, c'était un geste constitutif de la vie spirituelle et intellectuelle en Allemagne, cette accusation adressée à eux-mêmes par les chrétiens protestants en Allemagne, cette accusation d'indifférence, avoir commis un crime d'indifférence.
Et pourquoi vous, Peter Sloterdijk, vous avez choisi la philosophie à la fin de votre adolescence ?
Je me demande si la question est bien posée, parce qu'elle présuppose que c'était un choix. et je connais la tentation de arranger les faits biographiques de cette façon qu'on peut parler de choix. Mais à y regarder de plus près, on observe qu'il y a toujours un élément très fort de hasard, et que c'est peut-être même l'envers, que c'est la philosophie qui a pris possession de ce pauvre personnage qui au début faisait semblant de s'y intéresser. Donc il y a toujours une sorte de réciprocité, et comme je travaille assez souvent avec la conception de la possession au sens démonologique, et et que la moitié de la vérité psychologique appartient toujours au registre des possessions ou des obsessions. Il est très bien possible qu'à l'âge de 13 ans, 14 ans, un démon philosophique pourrait m'avoir envahi. Je me souviens très bien que notre professeur de religion, qui était un homme très aimable et très cultivé, d'orientation existentialiste, il m'avait confié la tâche de faire une conférence sur l'épreuve de Dieu.
Ça commençait fort, et
je faisais tout
ça
simplement.
Ça vous a pas fait peur?
Comme si jamais j'avais fait autre chose. Il s'avérait que pour moi c'était quelque chose d'absolument naturel. Il ne fallait pas fausser mon identité pour pouvoir m'occuper de ce sujet. Donc là, il y avait quelque chose que d'autres auraient appelé un don. Mais un don est aussi, ça fait partie du registre des obsessions. Au moment où tu découvres un don, tu es perdu, parce que le don oblige. Il faut le cultiver, il faut le développer. Tu n'as plus un seul jour libre, parce que le don s'impose et abîme ta vie. C'est que tous les joueurs d'instruments musicaux peuvent montrer, ils sont des témoins et martyrs de leur talent. Surtout les violinistes, parce que le violon est probablement l'instrument le plus diabolique avec le piano.
Mais au tout début, Peter Sloterdijk, vous avez brouillé les pistes parce que vous avez fait une thèse sur l'autobiographie qui est empruntée déjà à la littérature. Vous êtes devenu très vite aussi anthropologue. Est-ce que la définition de la philosophie que vous aviez dans la tête quand vous étiez étudiant correspond à celle que vous avez aujourd'hui, maintenant que vous êtes devenu un penseur de la philosophie?
Non, mais au début, j'ai ressenti une sorte de pressentiment de ce que je pouvais devenir. Mais comme le pressentiment était tellement fort, je pouvais me permettre de pratiquer une attitude que les jeunes aujourd'hui appellent procrastination. C'est-à-dire que je pouvais différer le sérieux. Je pouvais passer un passage, un laps de temps très très étendu, en évitant de penser que cette fois-ci ça sera sérieux. Donc je n'ai pas écrit, malgré le fait que je savais que, pour ainsi dire, l'encre était déjà prête. J'ai hésité, j'ai procrastiné, probablement parce que j'avais l'impression que tout n'était pas encore prêt. Je voulais sortir tout prêt. C'est la raison pourquoi mon premier livre est apparu à un âge où d'autres auraient déjà fait une dizaine à l'âge de 33.
Bah, c'est déjà pas mal, surtout que ce premier livre, je pense que vous pensez à Critique de la raison cynique, a été un best-seller international. Il jouait déjà dans le titre sur une contestation de la philosophie de Kant. Ouais. Quels sont les premiers livres de philosophes qui vous ont impressionné et peut-être plus imprimé quelque chose et qui vous ont donné la force de pouvoir penser d'abord sans doute avec eux, ensuite à côté d'eux et peut-être même face à eux?
Nous, ça commençait, bien sûr, dans les années 50, quand j'avais 12 ans, 14 ans. Qu'est-ce qu'on lit à cet âge lorsqu'on est garçon qui a des monstres sacrés comme Sartre et Camus devant soi? Bien sûr, c'était leur livre. J'ai lu Les mots de Sartre, D'ailleurs, dans une traduction d'un critique littéraire allemand, Hans Mayer, qui a fait une traduction sensationnelle, Martin Walser a écrit à l'époque, dans une critique dans le Spiegel, « Die Sprache klirrt vor schöner Anstrengung ». Malheureusement, presque intraduisible. La langue vibre d'un bel effort. Cet éclat du discours sartrien qui m'a vraiment frappé. C'était toujours le ton. Et ce que je cherchais chez un auteur, c'était pas une vérité de fait ou un argument. Je cherchais un ton, une musique, une mélodie.
Mais je vous propose d'écouter la voix de Jean-Paul Sartre.
J'estime que quand on est écrivain, on ne doit pas cesser d'être et on ne doit pas agir autrement que comme écrivain.
Oui, mais ça c'est en contradiction avec ce que vous avez dit alors, en 72 à peu près.
Ah bah oui, mais dis donc.
Oui, seulement vous êtes revenu. Maintenant, finalement, vous êtes avec des gens qui ont des activités intellectuelles, et non pas des activités de
bon. Oui, mais qui disparaîtront. Je garde l'idée maintenant que l'intellectuel est une création du 19e,
oui.
Qui s'annonçait au 17e ou au 18e, mais une création du 19e, et il disparaîtra à la fin du 20e ou au 30e, je ne sais pas, mais il est fait pour disparaître. L'homme qui pense pour d'autres, ça n'a pas de sens. Mmh. Si on revient à mon idée que tout homme est libre, doit être commandé par personne que par lui-même, l'idée d'écrire, l'idée du moins de penser pour d'autres, est une idée absurde qui condamne l'intellectuel.
Tout à fait d'accord avec vous. Reste que nous sommes dans une situation où...
où l'intellectuel est en train de faire.
Et doit faire son travail d'intellectuel.
Oui, je suis d'accord.
Et c'est ce que vous
faites. Et c'est ce que je suis.
Mmh. Et c'est ce que vous faites. Parce que y a une réponse que vous faisiez constamment quand on vous faisait cette objection. Vous disiez, mais moi, à l'époque vous avez 67 ans, bon, vous avez 70 aujourd'hui, c'est trop tard pour que je m'établisse, par exemple. Il y a eu toute une époque où moi, j'étais scandalisé par le fait que vous disiez la seule solution pour un intellectuel de sortir de sa contradiction intellectuelle, c'est de s'établir en usine. Ça me paraissait une négation brutale qui ne tient pas compte du temps nécessaire à une évolution historique. De l'intellectuel.
C'était une négation possible actuellement. Et d'ailleurs, il y a des intellectuels qui se sont établis et qui ne s'en portent pas plus mal. J'en connais.
Ils ne s'en portent pas mieux non plus.
Pas plus mal. Ils sont sortis. Ils sont établis 3, 4, 5 ans. Ils sont sortis. Non, il y a quelque chose de possible là. Ceci dit, effectivement, un vieillard de 67 ans qui vient frapper à la porte d'une usine en disant, y a-t-il un rôle d'OS ? Je le fais, c'est absurde.
Bien sûr.
Mais mon vieux était à la retraite depuis 3 ans.
Mm-hmm.
Non. Étant donné, si vous voulez, que j'ai compris la plénitude de ma situation d'homme politique, je l'ai compris vers 67 ans. Je l'ai compris à partir du maoïsme. Bref, je suis devenu homme politique, alors que d'autres le sont à 15 ans. Je suis devenu à 67 ans. C'est-à-dire à l'époque où quand même on commence à dire de ce vieux-là, il faut qu'il sortir.
Alors vous disiez tout à l'heure, Peter Sloterdijk, que vous étiez très impressionné par Sartre, à la fois les œuvres philosophiques, j'imagine, et aussi les œuvres littéraires, comme les mots auxquels vous faisiez allusion. Pourtant, on n'a pas l'impression dans votre œuvre philosophique que l'existentialisme, pour autant, est compté.
Non, mais pour moi, la tonalité existentialiste se dissout dans le sujet de ce que je fais. Ce n'est plus une attitude, mais si vous travaillez pendant une vingtaine d'années sur la question de la spatialité, de l'existence humaine. Il n'est plus nécessaire de produire un discours existentialiste à côté de ça. Tout mon travail est tellement envahi par des motifs existentialistes qu'ils ne peuvent plus se manifester séparément. C'est tout dans le sujet.
Dans la texture même de votre travail.
Dans la texture même et dans les motifs, la motivation profonde qui parcourt le travail tout d'un bout à l'autre.
Qu'est-ce qu'un sujet ?
Un sujet, ça me rappelle un épisode qu'on raconte autour d'un orateur grec, Gorgias, ou quelqu'un de ses collègues, qui est entré dans le grand théâtre de Dionysos à Athènes, s'adressant au public pressant et en leur lançant une sorte de défi en disant « probalete », ce qui veut dire « donnez-moi n'importe quel sujet ». Parce que le philosophe primordial, c'est celui qui sait littéralement parler de tout. Il n'est pas omniscient, mais capable de parler de tout, c'est autre chose. Donc il commence comme une sorte de virtuose, un joueur de piano, un maître improvisateur, et qui livre la preuve qu'il est interdit, si vous voulez être philosophe, de vous laisser attraper dans une position de amechania, c'est-à-dire démuni d'un savoir-faire, c'est-à-dire dans une attitude de Hilflosigkeit, sans recours. Et cela prouve que au début, la philosophie aurait été quelque chose comme une sorte de premier secours. La vie est toujours une série d'accidents et la philosophie est une sorte de secourisme correspondant. Mais après, on l'entend déjà dans le mot utilisé par Gorgias, probalete, c'est le verbe qui appartient au substantif problema, un problème, c'est quelque chose dont on peut parler. Ce n'est pas une réalité qu'il faut résoudre, mais c'est un sujet pour un discours. Et de là, on peut monter tout le chemin de la philosophie, jusqu'à de la philosophie contemporaine, qui a toujours gardé ce trait d'une problématique libre. C'est-à-dire, il a toujours un élément d'une inutilité constitutive qui entoure cette activité. Et en cela, la philosophie rassemble à la poésie.
Et votre philosophie a des tonalités poétiques et même prophétiques dans certains de vos ouvrages, Peter Sloterdijk. Vous venez de décrire, en fait, peut-être votre manière de philosopher. C'est pas du tout un savoir-faire, c'est plutôt un savoir défaire, non ? Défaire sans arrêt les certitudes, ce qui suppose beaucoup de savoir, avec un S, dans différentes disciplines. Comment s'est élaboré votre travail à partir du moment de la critique de la raison cynique ? On a l'impression que vous avez dépassé l'histoire même de la philosophie et que vous avez commencer à construire votre maison philosophique.
La maison de la philosophie est ronde, ça c'est sûr.
Alors, bon, vous parliez de la spatialisation, alors impossible de ne pas parler du rond et de sphère.
Ouais.
Pourquoi ?
Ouais.
Pourquoi, d'abord, pourquoi l'importance de la spatialisation dans l'espace mental de la philosophie ?
Ça commence avec une phénoménologie de l'horizon. Assumons que nous rentrons en Afrique et nous regardons notre habitat primordial. Qu'est-ce qu'on voit ? On peut faire demi-tour, plusieurs fois. La seule chose qui reste, c'est une ligne qui vous entoure et à laquelle on donne le nom, horizon. En même temps, on sait qu'il y a quelque chose derrière l'horizon. L'horizon est une apparition nécessaire, surmontable, mais inévitable en même temps. C'est, même si c'est un leurre, c'est un leurre inévitable, une erreur de vision qui ne peut pas arriver. Donc, à partir de là, on sait que déjà quelque chose sur la construction du monde, avoir une position dans le monde, c'est se trouver à un point à partir duquel un effet d'horizon peut surgir, devrait surgir. Sauf si vous êtes suffisamment malheureux pour vivre dans une vallée des Alpes où l'effet d'horizon ne peut pas surgir. Mais partout ailleurs, ça apparaît et ça contient déjà un premier grain de sagesse, parce que quiconque voit un horizon possède immédiatement le modèle concret de ce que plus tard on pourrait appeler une transcendance. Pourquoi ? On sait qu'on peut aller plus loin. C'est la limite de la visibilité, mais il y a du visible au-delà de la limite de la visibilité. Je crois que c'est une première, si vous voulez, une première opération quasi métaphysique. Ça commence comme ça, voir quelque chose là où on ne voit plus rien. Ça commence comme ça. De toute façon, l'être humain d'un animal auquel il faut expliquer sa situation. Je crois que c'est le point de départ de la philosophie et surtout de la philosophie narrative. Il y a une philosophie argumentative qui développe des arguments en les appuyant par d'autres arguments. Mais il y a aussi une philosophie narrative qui est mû par l'ambition de vous dire comment c'était au début. La plupart des hommes et des femmes possèdent spontanément l'impression que le monde a existé avant eux. Il y a très peu de gens qui sont capables à croire que le monde et eux ont le même âge. Ça arrive, mais très rarement. Normalement, on pense que c'est que le monde préexiste et que nous arrivons avec un certain retard et qu'il s'est déjà passé pas mal de choses avant nous. Donc, et pour combler ce trou du début, on fait des récits. Il y a un trou au début, il y a un trou pour la fin, et il faut boucher deux fois. Et cette activité de boucher le trou du début, ou boucher le trou de la fin, c'est le moteur de l'activité narrative. Parce que ce sont deux formes de panique en même temps. On ne peut pas tout simplement accepter de sortir de rien et de disparaître dans un autre rien, sans même savoir si le premier rien rassemble au deuxième. Dans l'Antiquité, les métaphysiciens étaient suffisamment optimistes pour pouvoir prétendre que le rien du début et le rien de la fin coïncident, ou ça, qu'ils forment un cercle. C'est une idée bien consolatrice, parce que dans ce cas-là, on ne disparaît pas dans un rien nouveau, mais on rentre dans un rien qu'on connaît déjà. Et ça, c'est ce qu'on appelle optimisme métaphysique. C'est parce que c'est une sorte de un rien maternel qui s'incarne sous la forme d'un tombeau maison. Et de là, on arrive à la question de la spatialité de base de l'être humain. Heidegger avait appelé la langue la maison de l'être. Il avait probablement oublié que Nietzsche, dans son Zarathoustra, avait déjà forgé cette métaphore de la maison de l'être. Ewig baut sich neu das Haus des Seins. Mais pour lui, la maison de l'être n'était pas le langage, mais le monde en tant que soi.
En fait, vous êtes un disciple de Nietzsche. Nietzsche apparaît pratiquement, même quand il n'est pas cité, dans tous vos livres.
Oui, il y a une sorte d'omniprésence des motifs nietzschéens. Si je peux m'appeler élève...
disciple.
Ça pose une autre question. Surtout parce que je suis maintenant beaucoup plus âgé que Nietzsche était au moment.
Mais vous n'êtes pas encore devenu fou.
De sa disparition mentale. Il s'est pratiquement éteint mentalement à l'âge de 45 ans.
Mais peut-être par engouement et par passion de la philosophie, justement.
Je ne crois pas. Il me semble qu'il y a des hypothèses nouvelles par rapport à la nature de sa maladie. Et les nouvelles hypothèses ne ressemblent pas au diagnostic précédent où l'on parlait de syphilis et autre chose. Non, il me semble que c'était une maladie névrologique assez rare. Mais il est vrai, c'était un paradoxe auquel on ne peut pas échapper. Je me souviens d'un livre d'Albert Camus, le premier homme, le dernier homme. C'était le dernier ou le premier ?
Le
premier homme. Où le narrateur parle de son père et il fait une visite au tombeau de son père qui est un jeune homme, au moment de sa mort, plus jeune que celui qui se trouve devant son tombeau. Ce sont des choses bizarres.
Vous pensez que vous êtes plus vieux que Nietzsche et que vous avez continué à vivre après Nietzsche et continuer à faire de la philosophie. Ça vous arrive d'y penser?
Oui, ça m'arrive de penser. Mais il m'arrive aussi de penser que je suis déjà beaucoup plus vieux que mon grand-père, parce que le père de ma mère est mort en septembre 1914. Il était parmi les premiers morts de la Première Guerre mondiale. Ma mère est née 5 mois après la disparition de son père. Et parfois, j'ai rêvé à une période de ma vie. Il me fréquentait la nuit. Il y avait un spectre qui passait à travers l'appartement. Et je savais, c'est lui. Et il était aussi plus jeune que moi, le grand-père. Alors, il y a des paradoxies biographiques qui te hante profondément.
Et ça vous plaît, l'idée de vieillir, Peter Sloterdijk?
Oui, j'aimerais bien vieillir si cela pouvait se faire sans souffrir tous les maux qui accompagnent la vieillesse. Mais je prévois qu'un jour, j'aurai les traités des anciens sur ma table de travail, des Senectutes, Seneca, Cicero et les autres. Il existait à l'Antiquité toute une littérature pour prouver que la vieillesse n'est pas un mal. Ce qui devrait être lu comme un avertissement sérieux, parce que tout le monde est profondément convaincu que le mal est là et qu'il s'appelle vieillesse. Je me souviens d'une conversation que j'ai eue avec le grand chanteur Dietrich Fischer-Dies, que j'ai visité dans sa villa au Starnberger See en Allemagne. Et on a mené une conversation très vive. Il y a aussi un élément de sympathie spontanée. D'ailleurs, il a fait une aquarelle, un portrait de moi, le jour après, de mémoire. Il a fait une peinture. Et au moment des adieux, il a fait une sorte de soupir de profundis. Il disait, ce n'est pas du tout un plaisir que de vieillir. Seul, un grand homme, dans tous les sens possibles du mot. C'était le dernier mot que je l'ai entendu dire. C'est kein Vergnügen.
Enfin, pour le moment, vous êtes en forme et vous la maintenez, cette forme, physiquement aussi. Oh. Vous faites attention à vous.
Oui, un peu.
Parlons du vélo.
Non, le vélo, c'est un instrument d'exercice. Ça vous permet de parcourir le monde extérieur. C'est une bonne alternative au cheval, parce que nous sommes sortis de l'époque des écuries et de la cavalerie. Tout le monde peut se permettre d'avoir un vélo dans sa cave ou dans la cour devant la maison. Un cheval, c'est trop exigeant. Même s'il est vrai que les mouvements des cyclomanes rappellent un peu l'activité du chevalier.
Et puis on a oublié le principal dans le vélo, c'est que le cycle c'est rond, donc ça vous va très bien.
Ouais. Non, et aussi on a une selle, on travaille avec les jambes, on a un guidon.
C'est vrai que vous pouvez faire 800 km ou 1000 km par an en vélo ?
Oui, c'est rien. Pour les vrais vélomanes, c'est rien.
Et vous pensez à quoi quand vous faites du vélo ?
Là, la belle chose, lorsqu'on fait du vélo, c'est qu'après une heure ou une heure et deux, on laisse les idées derrière soi. Il est inévitable de partir avec toute la charge des représentations mentales qu'on emmène, mais au bout d'une heure, on devient un peu plus rapide que les idées. Les idées deviennent de plus en plus lentes et on échappe. Et au retour, tu ne ressembles plus à la personne qui est partie. C'est une méditation involontaire, très bien adaptée aux besoins des Occidentaux. On ne peut pas toujours s'asseoir en position de méditation, les jambes croisées. Mais en Inde, on a appris qu'il existe aussi des méditations actives. Et je crois que le vélo possède beaucoup de qualités d'une méditation active.
Merci Peter Sloterdijk. On se retrouvera demain avec une seconde et dernière émission. Je rappelle les deux derniers titres de vos ouvrages, Les Lignes et les Jours et Ma France, tous deux parus aux éditions Libella Marencel. Merci à l'équipe de Hors-Champ, merci à Étienne Leroy, Cédric Châtelus, Corinne Amar, Élodie Royer, Samuel Bernard et Didier Lagarde. Vous écoutez France Culture. Bonne fin de soirée.